Chapitre 24. Albin quitte le domaine quelques jours plus tard alors que Noël approche. Les au revoir sont plutôt brefs. Pas de soirée arrosée. Hippolyte est dans ses bagages. Il part 2 semaines chez sa sœur à Pau pour les fêtes de fin d'année. Le domaine ferme ainsi que le chantier. Il ne recevra pas de nouveaux volontaires avant le mois de janvier. Cependant, il a autorisé Émile et Joanne à rester à l'annexe. Il leur a conseillé de prendre des vacances pendant son absence. Il semble soulagé de savoir que quelqu'un sera là pour prendre soin de son chien mystique que sa sœur ne supporte pas dans son appartement. Il leur a donné les instructions pour le nourrir et pour alimenter correctement la cheminée de l'annexe. Il leur a donné les horaires de passage du marchand ambulant, la tut-tut. Puis il leur a remis les clés du domaine avant de s'en éloigner presque à regret. Visiblement, Hippolyte n'aime pas quitter trop longtemps ces montagnes. Ce matin-là, il se retrouve donc complètement seul au domaine. Poc et Mystique ne sont que des ombres qui vont et qui viennent dans les étendues glacées, laissant des traces de pas dans la neige. Joanne et Émile se retrouvent un peu déboussolés dans cette annexe dont les 3 autres chambres sont vides, dans le silence le plus total. Il n'est pas question de travailler sur le chantier. Hippolyte leur a fait jurer de ne pas s'y aventurer pendant son absence, et puis le vent glacial qui souffle à l'extérieur les en aurait de toute façon dissuadés. Ils se retrouvent devant leur sobre repas de midi dans la petite cuisine vide, à regarder les flocons virevolter dehors, emportés par les bourrasques.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Demande Émile en jouant quelques secondes avec ses petits pois du bout de sa fourchette.
Joanne hausse les épaules. On ne peut pas sortir avec ce temps. Émile a vérifié ce matin. Hippolyte n'a pas de livre. Il n'y a même pas de vieux journaux à feuilleter. Pas de télévision non plus, bien évidemment. Il a déjà bien noirci les pages de son carnet ces derniers jours, écrivant à son père, à sa mère, à Margot, à Renaud, pendant ce bref répit où sa mémoire était intacte. Joanne se gratte la gorge en reposant sa fourchette.
Tu as une idée ? Demande Émile, plein d'espoir.
Elle hausse les épaules, hésitante.
On pourrait faire comme tout le monde ?
C'est-à-dire ?
Préparer Noël ?
Il est surpris et recule contre le dossier de sa chaise.
Tu veux dire, comme les gens normaux qui ont une famille et qui ne s'apprêtent pas à mourir ?
Il a lancé cela avec une pointe de cynisme et une pointe d'insolence aussi, comme s'il espérait au fond la faire sourire.
Oui,
répond Joanne avec sérieux.
Tu fêtais Noël avec ta famille, non ?
Bien sûr. On préparait ça 2 semaines à l'avance. Le sapin, la crèche, les compiles des chants traditionnels.
Joanne a un faible sourire, comme si cela lui rappelait des souvenirs familiaux à elle aussi.
Toi aussi, tu fêtais Noël ? Demande Émile.
Oui, avec mon père, on fabriquait tout nous-mêmes. Les cadeaux, la décoration, les guirlandes pour le sapin, les bougies parfumées. Ensuite, on faisait nos propres infusions à base d'écorce d'orange, de cacao amer et de cannelle.
Il ne peut s'empêcher de sourire. C'est comme s'il sentait l'odeur de la cannelle lui chatouiller le nez. Comme s'il entendait les cloches et les carillons sur un fond de piano sortant des haut-parleurs du salon. Il perçoit presque les bruits en cuisine. Les voix de Margot et de sa mère. Il sent le fumé du beurre persillé des escargots qui se répand au rez-de-chaussée. À Noël dernier, les jumeaux étaient arrivés avec des bonnets de Père Noël et Bastien avait sorti un nœud papillon rouge. Personne n'avait voulu commenter la mine fatiguée et absente d'Émile. Cela faisait déjà 5 mois que Laura était partie et ils songeaient tous qu'il aurait dû s'en remettre déjà. Il n'avait pas été réellement présent. Maintenant, il réalise qu'il a gâché son dernier Noël. Son dernier vrai Noël, en tout cas. Il reste toujours celui avec Joanne, dans cette annexe vide. Joanne, qui est censée être sa femme. Ils sont censés être une famille, après tout. Il se redresse avec plus d'entrain que tout à l'heure.
« Tu as raison, on pourrait préparer Noël. »
C'est leur premier Noël ensemble, et probablement le dernier. Il ne faudrait pas qu'ils passent à côté.
On pourrait faire un tour au village après le déjeuner et voir s'ils vendent pas des sapins.
Joanne acquiesce, la bouche pleine. ils rejoignent le village à pied sous les bourrasques de neige. Un vieux croisé au passage leur indique qu'ils ne trouveront pas de sapin ici, qu'il ferait mieux d'aller le couper eux-mêmes en forêt, ce qui a le don de faire briller les yeux de Johan. « Avec quoi veux-tu qu'on coupe un sapin ?» réplique Émile tandis que le vieux s'éloigne.
« Hippolyte a sans doute des outils dans sa cabane. Je suis sûr qu'il a des scies à métaux sur le chantier qui feront l'affaire. »
Ils poussent leur route un peu plus loin, malgré le froid et le vent glacial, afin de voir s'il n'existe pas, dans le bourg, au moins un bureau de tabac où ils pourraient acheter quelques feutres, du ruban, du fil pour fabriquer les guirlandes. Mais ils doivent rentrer bredouille. Le village, recouvert de neige, est un authentique petit bourg perdu en montagne. Ils comprennent que leur seule chance de se faire livrer ce genre de choses et d'avoir un lien avec l'extérieur du village est de faire appel à la tut-tut. L'autre option serait de prendre le camping-car, mais la neige continue de tomber et ce ne serait vraiment pas prudent. Sur le chemin du retour, Johan s'arrête à plusieurs reprises pour ramasser des pommes de pin ainsi que des branches de sapin. Elle prétend avoir déjà mille idées de ce qu'elle pourrait en faire. Émile l'attend en soufflant dans ses mains. Il s'occupe de refaire partir le feu dans la cuisine de l'annexe pendant que Johan appelle la tut-tut. D'après ce qu'il entend, elle tente de négocier pour que tout soit livré dès la tournée du lendemain, car sinon il leur faudrait attendre 4 jours de plus. Elle propose de payer un petit supplément, et cela semble faire fléchir l'homme, car quand elle raccroche, elle se lève pour faire du thé, et en attendant que l'eau chauffe, elle entreprend de trier ses branches de sapin avec un air satisfait.
« Il viendra demain ?»«
Oui. »
Elle continue de trier les branches, arrache quelques aiguilles par-ci par-là.
« Qu'est-ce que tu vas en faire ?» demande Émile en apportant la casserole d'eau chaude et les tasses sur la table.
J'aimerais les accrocher en cercle, avec du ruban doré.
Pour en faire une couronne de Noël?
Oui, et avec les chutes, on pourrait faire des étoiles. Il suffirait d'entrecroiser des petites branches et de les nouer avec du ruban.
Ils boivent leur thé en silence, en regardant la neige tomber dehors. Le jour commence déjà à décliner.
On essaie d'aller se trouver un sapin après ça?
Johan acquiesce. Ce soir-là, ils sortent du camping-car le Monopoly offert par Myrtille et ils jouent jusque très tard dans la nuit. Puis Émile se plante devant la fenêtre obscurcie par la neige et il observe la flamme vacillante des bougies posées sur le rebord. Johan avait raison avec sa fichue méditation. Plus sa mémoire révèle ses failles, plus il ressent le besoin de fixer une flamme, un nuage, n'importe quoi, de faire le vide en lui et de se concentrer sur le silence. Il reste longtemps immobile dans la petite cuisine à fixer les bougies qui s'éteignent une à une. Puis il rejoint Johan et Poc dans leur chambre et il s'endort d'un sommeil profond.
Qu'est-ce qu'on fait là ?
Johan se retourne brutalement. Elle est en train de prendre son petit déjeuner dans la cuisine en surveillant par la petite fenêtre l'arrivée de la tut-tut. Émile se trouve sur le pas de la porte et à l'expression de son visage, elle sait immédiatement qu'il fait un nouveau blackout. Elle attend une seconde, puis deux. Elle espère que cela suffira à le faire revenir à lui, à As, à ce qu'ils font là. Mais ce n'est pas le cas. Il demande de nouveau « Qu'est-ce qu'on fait là ?» Elle ne peut s'empêcher de noter que les notes dans sa voix ont changé depuis ses premières pertes de mémoire. Ses premiers blackouts étaient synonymes d'effroi. Il le plongeait dans une angoisse sans nom. Elle se souvient encore de cette fois où il suffoquait au réveil, allongé sur l'herbe. Les premières fois, c'était comme s'il comprenait en partie qu'il venait de perdre la mémoire. Il y avait l'effroi et puis il luttait pour comprendre, pour reprendre pied. Mais l'autre soir sur le chantier, c'était totalement différent. Plus de panique, plus d'angoisse. À la place, cette confusion des lieux, des personnes, du présent et du passé. Comme si désormais il était trop touché pour prendre conscience du fait même qu'il perdait la mémoire. Toujours sur le pas de la porte, Émile demande lentement
« Où est maman ?»
Elle déglutit en reposant lentement sa tasse de café. Avant de pouvoir lui répondre, elle aimerait savoir pour qui il la prend désormais. Ce ne semble pas être Laura. Il est extrêmement calme avec elle.
« Je sais pas. »
Elle songe que ce genre de réponse ne l'engage à rien et ne peut pas faire empirer la situation. Elle le regarde avec soulagement entrer dans la cuisine et tirer une chaise pour s'y asseoir.
« Elle a dû partir faire quelques courses », déclare-t-il. « Et je suppose que papa dort encore ?»
Johan reste figé, incapable de savoir quoi répondre. Elle n'ose faire un geste. Émile, lui, attrape la cafetière et se sert une tasse de façon totalement paisible. Il n'est plus conscient un seul instant d'être en décalage avec la réalité. Il est dans sa propre réalité. Une réalité constituée de souvenirs et de suppositions. Elle ne sait pas ce qui est le plus effrayant, finalement. L'angoisse des débuts ou cet oubli total.
On est arrivé hier ?
Reprend-il en portant la tasse à sa bouche. Elle reste immobile, faisant de son mieux pour maintenir un air impassible.
Marjo ?
Elle sursaute en entendant le prénom. Ainsi donc, elle est Marjorie aujourd'hui. Elle s'efforce de répondre en bredouillant.
Oui.
Émile attrape les branches de sapin que Johan a laissées sur la table la veille et il fronce les sourcils.
Qu'est-ce que c'est que cette horreur ?
Il ne voit pas le visage de Johan qui blêmit.
Je te parie que maman veut nous faire une décomaison.
Il se retourne brutalement vers elle.
C'est elle qui a voulu louer ce chalet pour les fêtes ?
Pourvu qu'il revienne à lui, pourvu qu'il revienne très vite à lui.
Johan s'agite sur sa chaise de plus en plus mal à l'aise. Elle déglutit, essaie de lancer d'un air détaché.
Devine ?
Elle reconnaît à peine le sourire d'Émile, comme s'il appartenait à un Émile d'une autre époque qu'elle n'aurait pas connue. Ce devait être le genre de sourire de connivence qu'il lançait à sa sœur auparavant. Il avale son café d'une traite et se lève.
Où tu vas ?
Demande-t-elle inquiète.
Bah, à réviser,
réplique-t-il comme s'il s'agissait de quelque chose de parfaitement évident.
Ah !
J'ai le bac blanc à la rentrée. Je sais bien que c'est les vacances, mais j'ai un sacré retard.
Elle ferme les yeux lentement, priant pour que tout ça ne soit qu'un mauvais rêve. Quand elle les rouvre, il a disparu de la cuisine et elle n'en ressent qu'un immense soulagement.
Émile ? Émile, tu es où ?
Elle marche lentement, de tout petits pas dans le couloir. Elle a réussi à avaler son café, puis elle a attendu, assise dans la cuisine, l'oreille aux aguets. Elle s'est demandé s'il allait réapparaître et demander où maman avait rangé ses cours de terminale. Mais il ne l'a pas fait. Elle n'a rien entendu. Elle s'est alors décidée à se lever et à le chercher dans l'annexe avec appréhension. Elle a peur de le trouver délirant, de devoir encore jouer une comédie dont elle ne connaît pas les règles. Elle appelle encore.
« Émile ?»
Et la voix lui répond.
« Je suis là !»
La porte de la petite salle de bain s'ouvre brutalement et Émile apparaît dans un peignoir, une serviette à la main.
« T'es déjà levé ?» demande-t-il.
Une seconde lui suffit à se composer un masque totalement impassible, à prendre un air détaché. Elle acquiesce.
« Oui, je suis levé. »«
T'as fait du café ?»
Visiblement, il est revenu à lui. Il ne s'est même pas aperçu qu'il était parti faire un petit tour dans le passé, du côté de ses 18 ans. Johan est tellement soulagée de le voir de nouveau dans sa réalité qu'elle préfère ne rien dire, faire comme si rien d'étrange ne s'était passé.
Oui, la cafetière est sur la table.
Un bruit de moteur se fait entendre à l'extérieur et Émile fronce les sourcils.
Qu'est-ce que c'est ?
Johan sursaute et se presse de courir au bout du couloir pour enfiler un manteau. Elle avait presque oublié.
Ce doit être le livreur.
Chouette, je m'habille et j'arrive.
Elle est tellement soulagée qu'elle sort dans la neige en chaussettes et il lui faut plusieurs mètres pour s'en apercevoir. Tout est là, étalé sur la table devant eux. 6 cagettes pleines de provisions, de boissons, de petits matériels pour s'atteler aux décorations. En quelques secondes, l'agitation regagne l'annexe. On range les provisions, on déballe les peintures, les rubans, les bombes de paillettes. Johan nettoie la table et fait de la place pour l'atelier fabrication de guirlandes. Émile la regarde faire avec attention, piochant dans le paquet de papillotes. Oubliez la confusion du matin et l'étrange malaise. Pour un temps au moins.
Cet après-midi,
« Tu penses qu'on aura fini les décorations pour le sapin ?»
demande Émile, la bouche pleine. Johan est appliqué à passer du fil transparent autour des branches de sapin afin de les maintenir entre elles en cercle. Puis elle découpe du ruban doré et elle forme des petits nœuds qu'elle accroche de part et d'autre de la couronne. Le résultat est plutôt joli. Fait-elle pensive.
« Je sais pas. Pourquoi ?»
Je me disais, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de séance de méditation.
Elle relève la tête, surprise.
Vraiment ? J'avais l'impression que ça t'ennuyait.
Émile secoue la tête mais termine d'avaler sa bouchée de chocolat avant de répondre.
Je crois que ça m'aide. Tu sais, quand je sais plus très bien ce que je fais, à tel endroit, ou pourquoi je suis déjà habillé alors que je suis persuadé que je viens de me lever. Ben, je fais comme tu m'as dit. Je me concentre sur le moment présent et je vide mon esprit.
Elle sourit avec une pointe de tendresse.
C'est bien.
Elle reporte son attention sur les nœuds dorés. Elle ne veut pas repenser à la scène de ce matin qu'il a totalement oubliée. Elle veut croire que ça n'était qu'un blackout isolé et pas le début de la dégénérescence.
Alors, tu es d'accord ?
Elle relève la tête avec cette affreuse sensation d'avoir la poitrine comprimée.
Hein ?
Pour la méditation.
Ah oui, bien sûr.
Elle le regarde se lever, jeter un coup d'œil par la fenêtre.
Je vais nourrir Mystique, je reviens.
Elle acquiesce. À travers la petite fenêtre recouverte de buée, elle le voit avancer dans la neige et elle voit Mystique accourir vers lui. Il s'accroupit, forme une boule de neige entre ses mains et la lance au loin. Mystique se met à aboyer et à chercher tout autour de lui. Émile lui parle. Elle croit attraper au vol quelques mots.
Cherche ! Où elle est ?
Johan se replonge dans la confection des petits nœuds dorés avec cette sensation toujours présente d'avoir la poitrine prise dans un étau. Saint-Suliac. Elle s'efforce de revenir à Saint-Suliac.
Papa !
La voix de Johan a résonné avec force dans toute la maison en pierre et Joseph accourt dans sa chambre, anxieux.
Qu'est-ce qui se passe ?
Il la trouve assise sur son lit, un livre ouvert sur les genoux, les mains plaquées sur son ventre, de plus en plus rond chaque jour.
Qu'est-ce qui se passe ?
Demande Joseph avec crainte.
Il y a un problème avec le bébé ?
Johan a les yeux écarquillés. Elle est figée comme si elle se concentrait sur quelque chose, comme si elle cherchait à entendre quelque chose.
Johan ?
L'appelle Joseph avec douceur. Elle semble retrouver doucement ses esprits, car un demi-sourire se forme lentement sur son visage.
Il bouge.
Joseph pousse un soupir de soulagement et vient s'asseoir à côté d'elle.
C'est la première fois ?
Elle acquiesce. Elle semble plongée en plein ravissement, ses mains crispées sur son ventre. Son sourire ne s'adresse à personne en particulier. Joseph lui laisse quelques secondes avant de demander avec douceur.
« Tu veux que j'appelle Léon ?»«
S'il te plaît. »
Léon ne tarde pas à se présenter à la porte de la maisonnette, fébrile et impatient.
« Elle est où ?»
demande-t-il à un Joseph à l'air grave.
« Dans sa chambre. »
Il accourt presque. Il s'agenouille auprès du lit et saisit les mains de Johan en murmurant.
« Jo !»
Elle le regarde sans manifester une quelconque émotion.
« Jo, je suis désolé, tellement désolé. »
Elle secoue la tête pour l'empêcher de poursuivre. « Le bébé bouge !» annonce-t-elle placide. Les yeux de Léon passent du ventre rond de Johan à son visage. Il semble hésiter. Qu'est-ce qui compte le plus pour le moment ? Le bébé ? Obtenir le pardon de Johan ? Finalement, il vient coller son visage contre le ventre de Johan, tout en continuant à murmurer.
« Je suis content que tu m'aies fait appeler. Je te promets que je ferai tout pour me faire pardonner. Jo !»
Il s'interrompt soudain, les yeux écarquillés.
« Jo ! Il... Jo !»
Il se redresse, pose ses deux mains sur le ventre de Johan. Ses yeux sont ahuris. Il répète encore.
« Jo, il... »
Elle sourit enfin, le premier sourire qu'elle lui adresse depuis leur dispute.
« Je sais.
Il bouge.
Je sais.
Elle ne peut s'empêcher de sourire devant le ravissement de Léon. Il ne tient plus en place. Il pose ses mains sur son ventre, y colle son oreille, puis sa bouche pour crier.
Salut ! Eh, salut là-dedans ! C'est...
Ils se redressent et ils échangent un sourire ému. La fin de la phrase tombe dans une exclamation incrédule.
C'est papa !
Joanne rit. De grosses larmes de crocodile lui coulent sur ses joues. Léon embrasse son ventre. Elle lui caresse les cheveux. Le bébé gigote. Elle ne veut plus jamais qu'il parte.
Tu penses à quoi ? Tu souris toute seule.
Elle sursaute en entendant la voix d'Émile. Elle est de retour dans la petite cuisine tasse dont la fenêtre est obscurcie par la neige.
Tu es déjà revenu ?
Elle le regarde s'asseoir et déposer devant lui une dizaine d'oranges.
Qu'est-ce que tu fais ?
Demande-t-elle, surprise. Je vais éplucher les oranges et puis je ferai sécher les écorces sur le rebord de la cheminée pour faire une de tes infusions.
Elle sourit avec étonnement. C'est vrai ?
Ouais, c'est comme ça qu'il faut faire, non ? Elle se lève et se la fait grincer sa chaise sur le sol en dalle de la vieille cuisine.
Oui, je vais t'aider.
La cuisine sent l'orange et le feu de bois. Les épluchures s'amoncellent sur la table et Émile désigne le saladier dans lequel ils ont déposé les oranges nues.
Il va falloir manger tout ça maintenant.
Il engloutit un quartier. Joanne se lève et va déposer les épluchures d'oranges bien à plat sur le rebord de la cheminée.
Tu pensais à quoi tout à l'heure quand tu souriais ? Demande Émile.
Il la regarde aplanir avec ses paumes chaque peau d'orange. Elle lui tourne encore le dos. Il ne sait pas s'il a bien fait d'insister, de demander encore. Pourtant, elle répond
« Je pensais à Saint-Suliac. »
Il ne sait pas si elle a un air triste ou heureux en disant cela. Il ne voit que son dos.
« Ton village te manque ?»«
Parfois. »
Elle ne semble pas vouloir s'apesantir sur le sujet. Elle se retourne, frotte ses mains sur son pantalon et déclare
« Il faudra attendre qu'elle soit sèche. » Ensuite, on les réduira en miettes et on les mettra dans un filtre à thé. On y ajoutera la cannelle et la badiane. Je crois que j'ai commandé tout ça, non ?
Il se penche par-dessus les cagettes posées sur la table. Il a compris qu'elle voulait passer à autre chose. Il soulève un paquet de sucre et la bouteille d'huile, mais reste perplexe.
Ça ressemble à quoi, la badiane ?
Elle lève les yeux au ciel, mais c'est pour la forme.
Laisse-moi chercher, je vais te montrer.
Il n'en fallait pas plus pour que la lourdeur de la matinée s'envole et que l'esprit de Noël s'infiltre dans l'annexe vide. Poc est roulé en boule sur la petite chaise en bois à côté de la cheminée. Des paillettes volent un peu partout. Joanne vérifie d'un œil expert ces petites pommes de pin qui ont pris une jolie teinte dorée. Elle en fixe une dernière au sapin. Émile se pique les doigts en essayant de finaliser la couronne de Noël. Il a découpé, dans l'emballage carton d'une boîte de pâte, des petites étoiles rouges qu'il a accrochées aux branches comme il le pouvait. En suçotant son doigt douloureux, il observe son chef-d'œuvre.
Qu'est-ce que t'en penses ?
Les étoiles rouges portent encore les lettres de l'emballage de pâte. Sur l'une, on peut lire la moitié d'un mot. Ital. Sur une autre, on décrypte le G de 500 grammes. Joanne conserve un air impassible et tout à fait sérieux en déclarant
« C'est très joli !»
Plus tard, il décide de boire un thé et en voulant chercher un petit ami dans un tiroir de la table en bois branlante, Joanne tombe sur un vieux puzzle 500 pièces. Ce puzzle, qui représente un paysage d'automne en forêt, les occupe jusqu'à très tard dans la nuit. Ils en oublient de manger autre chose que des oranges et Joanne finit par s'endormir, la tête sur la table, au milieu des minuscules pièces.
Il neige encore ?
Bougonne Émile en s'étirant, les paupières lourdes de sommeil. Joanne est déjà levée et elle est assise sur le rebord de la fenêtre dans leur petite chambre. Poc est couché sur le lit à côté d'Émile. Elle colle son visage contre la vitre.
Oui.
Beaucoup ?
Oui, on va finir par être ensevelis.
Heureusement qu'on a commandé toutes ces choses. Je sais pas si la tut-tut passera avec cette neige.
Elle acquiesce. Il l'a portée jusqu'à leur lit cette nuit. Elle ne pesait pas plus lourd qu'une plume. Elle n'a pas bronché, pas même un soupir.
« Tu fais quoi? Tu peins ?»
Il vient de s'apercevoir que Johan avait une toile posée sur les genoux. Il se redresse dans le lit en ramenant la couverture sur son torse. Il fait un froid de canard malgré la cheminée.
« Oui, j'aimerais commencer un nouveau tableau. »«
Et tu peindras quoi ?»
Elle hésite et mordille le bout de son pinceau. La toile est encore blanche, visiblement.
« Peut-être toi ?»
Ils échangent un sourire.
« Moi ?»«
Oui. »«
Fait-il. « Pourquoi pas ? Est-ce qu'il faudra que je prenne une pause particulière ? Tu comptes pas faire un nu, quand même ?»
Il s'amuse de l'avoir levé les yeux au ciel.
« Je suis pas contre un nu, tu sais. »
Elle se lève et dépose la toile vide sur le rebord de la fenêtre. Elle porte des énormes chaussettes en laine verte ce matin et son éternel châle noir.
« On verra ça plus tard. »«
Tu vas où ?»«
Faire du thé. »
Elle disparaît dans le couloir et Poc se lève lui emboîtant le pas.
« Et ma méditation ? »
crie-t-il. Mais tout ce qu'il entend à travers les cloisons, c'est la déception de Johan quand elle constate.
« Ah non ! T'as fini le puzzle sans moi ? »